On l'accueille en studio. Analyste politique et social, Éric Lantier est avec nous. Bonjour, Éric.
Allô, Carl.
Alors, première chronique politique au 104.7 et tu commences en grand. Le sondage des élus préférés des Québécois. Qu'est-ce que tu en retiens?
Bien, on pourrait en parler longuement, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'Éric Duhaime est si impopulaire. Hein? 57% là, le dénigre. Hein? Il y a seulement 22% d'appui. Et je me dis, en 2023, Éric Duhaime va devoir sortir un lapin de son sac ou de son chapeau. Et moi, ce que je lui suggérerais, Carl, si j'étais son conseiller politique, je dis, mets l'accent sur le marché francophone international. Pourquoi? Parce que le français, d'ici 2050, va être une des trois langues les plus parlées à travers la planète. Alors, là, ça serait le temps de vendre nos universités. Là, au lieu de critiquer contre les hôpitaux qui ne fonctionnent pas, d'amener quelque chose de positif. De dire, on va aller chercher le marché francophone international. Puis pour ça, il va falloir faciliter la reconnaissance des acquis. Alors, c'est là qu'il devrait capitaliser. Puis là, il va damer le pion au PQ, à la CAQ, en disant, nous, on va aller chercher ce marché-là. On se prépare. On commence à fabriquer l'entrepôt pour recevoir le marché. Le marché international. Eh, hey, merci, c'est une entrée fulgurante,
bon,
ça.
OK, bien, le marché international, OK, je comprends, mais bon, en 2023, même si Éric Duhaime réoriente son approche puis devient soudainement monsieur positif, son problème, c'est qu'il n'y a pas de siège, il n'est pas élu, puis il n'y a pas d'élection avant 4 ans.
Oui, mais c'est justement là, en amenant des bonnes idées, il va pouvoir dire, ces idées-là, là, ils ont besoin d'être entendues à l'Assemblée nationale. J'ai besoin d'un bureau. J'ai besoin de participer au point de presse. J'ai besoin justement d'être là quand il y a un débriefing concernant les budgets, etc. J'ai besoin de vous défendre parce que j'ai des idées novatrices qui sont des idées positives. Moi, j'ai besoin de vous représenter. Je représente 500 000 d'électeurs québécois, québécoises.
Une autre nouvelle qui a retenu ton attention, Éric, c'est cette nouvelle concernant l'accès à l'information. C'est pas facile, puis il faudrait le faciliter.
Oui, c'est ça. Ben, l'accès à la francisation, en fait.
Ah, excuse-moi, j'ai mal lu. J'ai lu l'information parce qu'il y avait une nouvelle là-dessus. À la francisation, donc tu parles des seuils, de l'accès, le guichet unique.
Oui, le guichet unique, depuis 1998 qu'on pense à ça. Puis 10 ans plus tard, ça a pris 10 ans pour dire, ouais, on devrait commencer à penser à faire quelque chose qui a de l'allure. Et ça l'a tellement cafouillé, ça, ce guichet unique pour faciliter la francisation, que la directrice, la vérificatrice générale, justement, a dit dans son audit en 2017 là, qu'il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux pour accélérer les choses, clarifier les choses. Et là, justement, il est temps qu'on facilite la tâche aux immigrants parce que ce qui arrive, c'est qu'administrativement, c'est devenu tellement
lourd. C'est pesant.
C'est pesant. Puis, justement, on veut favoriser le français. On veut, au Québec, protéger notre langue française. On veut que les immigrants soient francisés puis puissent être heureux de se débrouiller, de parler en français, de travailler en français. Je pense que là, ça devrait être une priorité du gouvernement en 2023.
Mais tu sais, ça, on en parle, je veux dire, depuis des temps immémoriaux, là, mais ça fait vraiment longtemps qu'au Québec, le gouvernement du Québec a une politique de francisation. Comment ça se fait que c'est pas encore réglé et que c'est pas encore plus facile, considérant l'état de la situation?
Oui, surtout aujourd'hui, là, avec la technologie, tu sais, avec le Zoom, avec Meet, avec toutes ces plateformes-là, là, on peut former des gens même avant qu'ils arrivent au Québec. On peut donner des formations en disant, OK, on t'attend dans 6 mois, tout ça, on pourrait commencer à te donner des cours, etc. Et je pense qu'il y a une volonté politique qui est ici, qui devrait être davantage accentuée. Je pense qu'en 2023, le gouvernement de la CAQ devrait démontrer que c'est sa priorité. Et s'il ne le fait pas, et là, il rouvre la porte à l'opposition pour se faire japper dessus, là.
Niveau fédéral maintenant, le gouvernement fédéral a annoncé sa politique pour le retour au travail pour 2023. Ça s'en vient là, dans 18-19 jours, le 16 janvier. Les gens vont retourner au travail en présentiel 2 à 3 jours par semaine. C'est pas clair, mais ça s'en vient, puis les fonctionnaires sont pas très, très contents.
Non, avec raison. Puis l'affaire, c'est que le gouvernement est pris avec une patate chaude. D'un côté, là, les centres-villes, autant de Hull que d'Ottawa, sont en train de se vider. Pourquoi? Les commerces se ferment. Allez vous promener dans les rues là, du vieux Hull, dans les rues du centre-ville d'Ottawa. Là. C'est marqué « for rent », alloué.
Oui, oui, oui.
Je veux dire, bon, ben, ça a un impact économique, ça.
Bien sûr.
Donc, si les employés ne viennent plus travailler au bureau, ben, ils n'achètent plus de café, ils ne vont plus dîner, ils font plus de 5 à 7 dans le coin parce qu'ils sont tous à la maison. Fait qu'il y a une pression économique qui est mise sur le gouvernement. D'un autre côté, on n'a pas le choix maintenant avec la pénurie de main-d'œuvre. Les gens ont goûté c'est quoi le télétravail.
Ben oui, puis on leur a dit pendant 3 ans qu'ils étaient aussi efficaces et productifs qu'avant. Ben,
certains. Puis surtout, ce qui arrive, c'est qu'il y a des recherches qui démontrent que ça améliore le moral des employés. Ça réduit le roulement parce que les gens sont contents. Écoute, moi, si j'étais parent et j'avais des enfants encore à l'école, je suis-tu content d'accueillir mes enfants à l'école?
Surtout qu'à l'heure qu'ils arrivent. Ben oui. Ils arrivent à 3h, 3h15 pour les plus jeunes. Là, tu es à la maison, la porte est ouverte, tu les accueilles puis tu peux continuer de travailler sans te perdre dans le trafic.
Tout à fait.
C'est un rêve.
Oui, puis aussi le télétravail, ça réduit les coûts. Et ça coûte de l'argent, ça, entretenir des immeubles, louer des immeubles, réparer, changer les bureaux, tout
ça. Mais là, en même temps, ils sont vides puis on paye pareil.
Ouais.
Ça, c'est un autre problème.
Ouais, pour un temps. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est que ça amène les aînés à rester plus longtemps en poste.
Parce qu'ils ne vont pas à la retraite.
Mais ils ne vont pas à la retraite. Ils travaillent à la maison.
C'est pas difficile. C'est pas fatigant.
Exact. Il y a plus de flexibilité. Mais l'enjeu économique des centres-villes, ça pèse dans la balance. Parce que s'il n'y avait pas ça, c'est sûr que le gouvernement serait beaucoup moins pressé à pousser les fonctionnaires à revenir dans leur bureau.
Mais dans le fond, est-ce que c'est la job du gouvernement fédéral en tant qu'employeur de ramener son monde dans les centres-villes pour qu'ils dépensent de l'argent? Je veux dire, ça, c'est une question qui se pose, là.
Oui, puis de toute façon, un marché, c'est toujours fluide. Hein?
Ben oui.
L'économie, ça bouge. On n'a pas le choix de se réinventer, puis on est dans une saison où est-ce que le télétravail est incontournable, spécialement avec la population qui vieillit puis qui les jeunes qui veulent concilier famille-travail. On n'a pas le choix de passer par là.
On n'a pas le choix, effectivement. Éric, la glace est brisée?
Ben oui.
Ça a bien été?
Oui.
OK, on se retrouve demain.
Merci. Au revoir.
7h20 minutes après la pause, on parle avec Daniel Côté de l'Union municipalité du Québec.
Pour réentendre les entrevues de Carl Bélanger, fm1047.ca.